Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et la RDC à la une ce matin. La RDC en guerre, invitée à discuter du partage de ses ressources avec les États-Unis. Discussion engagée et confirmée par Washington. Il est l'un des quatre candidats autorisés pour la présidentielle au Gabon et l'ex-premier ministre Alain-Claude Bili-Binzé a présenté son programme hier. La première session parlementaire de l'année au Cameroun et l'opposition qui espère en cette année électorale obtenir une réforme du code électoral. La tombe d'Ernest Ouandier profanée au Cameroun, justement, une figure de l'indépendance pour beaucoup, mais décriée ces derniers temps, polémique sur place. Et puis, le risque de nouvelle guerre civile bien réelle au Soudan du Sud, alerte qui émane de l'International Crisis Group. Ukraine, Groenland et donc RDC. Les États-Unis, dans leur quête de minerais et de ressources naturelles, se tournent à présent vers Kinshasa. Le département d'État le confirme à Washington. Guillaume Nodin, des discussions ont été engagées pour permettre, pourquoi pas à terme, une exploitation américaine du sous-sol congolais.
Ce ne sont encore que des discussions exploratoires, mais elles existent officiellement. La diplomatie américaine le confirme à au moins deux médias, l'agence Reuters et le Financial Times. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda America First de l'administration Trump, dit un porte-parole du département d'État, qui note que le Congo détient une part importante des minerais critiques nécessaires aux technologies de pointe. Parmi les minerais concernés, il y a le cobalt, le coltan ou encore le lithium. Le problème, c'est que les gisements sont dans l'est du pays, actuellement en grande partie occupés par le mouvement Alliance Fleuve Congo M23, soutenu par le Rwanda, que les autorités de Kinshasa accusent de contribuer au pillage et à l'exploitation des minerais rares. La proposition de discussion vient de Kinshasa, qui a bien noté l'intérêt américain pour les ressources en minerais et terres rares. Elle a été exprimée par le président Félix Tshisekedi lui-même dès la fin février. La proposition ressemble d'ailleurs beaucoup à l'accord actuellement en discussion entre les États-Unis et l'Ukraine, qui donnerait un accès à des intérêts américains aux minerais en échange de garanties de sécurité. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Des ressources congolaises pour l'heure prédatées en partie par le M23 et ses soutiens rwandais ayant pris le contrôle de plusieurs villes au sud et nord Kivu. Encore dimanche, au terme de 4 jours de combat sur le territoire de Masisi, ils se sont emparés de la localité de Niabiondo. Et dans ce contexte, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs a rencontré hier le président Tshisekedi. Entretien avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 4 avril prochain. Kinshasa, où les cadres du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila, étaient par ailleurs entendus pendant plusieurs heures hier, invités à éclairer la justice sur des soupçons de collusion avec l'AFC M23, ce que les intéressés démentent. Mais rien n'a filtré pour l'heure de ces auditions, aucune déclaration. Ils étaient 23 prétendants pour l'élection présidentielle prévue le mois prochain au Gabon, mais parmi eux, seuls 4 ont vu leur candidature validée. Face au président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, il y aura donc notamment l'ex-premier ministre Alain-Claude Bili-Binzé. Il a justement présenté son programme hier lors d'une conférence à Libreville. Yves-Laurent Goma l'a écouté pour RFI.
Alain-Claude Bili-Binzé propose aux Gabonais un projet de rupture. En cas de victoire, le dernier premier ministre d'Ali Bongo promet de réduire le train de vie de l'État en supprimant des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et la médiature de la République. Il promet de faire de la lutte contre le chômage sa priorité.
Partout où je suis passé au Gabon, la priorité qui m'a été présentée par les populations, c'est la question de la lutte contre le chômage des jeunes. J'entends donc faire de la question de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la priorité du septennat. Il faudra que la jeunesse gabonaise s'épanouisse, qu'elle trouve un emploi et les mécanismes seront mis en place pour cela.
Second volet de son programme, la souveraineté du Gabon.
Faire en sorte que le Gabon reconquiert son indépendance. Indépendance économique, financière, diplomatique, indépendance militaire également. Il faut revoir les accords de coopération avec la France, indépendance alimentaire. J'entends également mettre un coup de rabot aux finances publiques pour faire en sorte que nous soyons un État qui gère mieux ses ressources, faire revenir les bailleurs de fonds internationaux dans une discussion franche sur la question de la dette pour pouvoir dégager des marges de manœuvre et investir davantage.
Pour mettre en œuvre ce projet de société, Alain-Claude Bili-Binzé invite les Gabonais à voter pour lui. Il affirme être le bon choix pour changer et développer le Gabon. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
La vie politique camerounaise à présent et l'ouverture ce matin de la première session parlementaire sur les 3 qui sont attendus cette année. Et comme il est de coutume, cette session sera dédiée au renouvellement des bureaux des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais année électorale oblige, l'opposition parlementaire compte profiter de ce retour dans l'hémicycle pour remettre sur la table une revendication déjà ancienne pour pousser le pouvoir à réformer le code électoral. Correspondance, Polycarpe Samba.
De retour au Cameroun depuis 2 semaines après de longs mois d'absence pour raisons médicales, Marcel Niat Ndjifendji, le président du Sénat, devrait tenir sa place à l'ouverture de cette session. Une présence indispensable pour éventuellement être reconduit à la tête du Sénat qu'il dirige depuis sa création en 2013. À l'Assemblée nationale, c'est un autre ponte du régime qui tient les rênes de l'institution. Depuis 33 ans, Kavaï Yegué Djibril a été continuellement reconduit. Et cette session de mars 2025, sauf énorme surprise, ne devrait pas faire exception, rappellent les observateurs de la scène politique nationale. Pour l'opposition parlementaire, la session qui s'ouvre pourrait revêtir les atours d'un barreau d'honneur. Ils sont 4 partis politiques pour un total de 16 députés qui voudraient saisir le prétexte de cette session pour amener le pouvoir sur le chantier d'une réforme, fût-elle minimale, du code électoral, entre autres une élection présidentielle à 2 tours, l'impression d'un bulletin de vote unique ou encore rendre le vote obligatoire pour tous citoyens ayant la majorité électorale, selon le député Kopit Adamo de l'UDC. En janvier dernier, le président Paul Biya s'est dit ouvert à ces débats, à la suite de quoi ses partis lui ont fait tenir une copie des réformes qu'il souhaite obtenir avant l'élection présidentielle. Mais en face, ils ont le RDPC, le parti présidentiel, qui compte 10 fois plus de députés. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Le Cameroun, où la profanation d'une tombe crée la polémique. Celle d'Ernest Ouandier, vu par beaucoup comme un héros de l'indépendance camerounaise, une des figures de proue de l'UPC. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi au cimetière protestant de Bafoussam, dans l'ouest du pays. Ils interviennent après une controverse sur le rôle qu'Ernest Ouandier a joué pour la libération. Indignation dans la société camerounaise, Richard Onanena.
Des carreaux brisés, une partie de la tombe endommagée, les images de la profanation ont consterné les internautes camerounais. Pour la famille d'Ernest Ouandier, cet acte est avant tout un manque de respect. Philippe Ouandier est le fils du militant nationaliste.
L'auteur de ces actes, ou les auteurs de ces actes, ils mesurent pas la portée de l'acte qu'ils ont posé. La tombe est un lieu de repos pour ceux qui nous ont précédés. Et aller profaner leur tombe, c'est leur manquer de respect. C'est un manque de respect même à la nation qui a reconnu mon père comme héros national.
Cette profanation survient quelques semaines après un débat dans les médias sur la pertinence de la lutte menée par l'Armée nationale de libération du Cameroun, ANLK, sous l'impulsion d'Ernest Ouandier entre 1960 et 1971. Un homme politique n'a pas hésité à traiter le nationaliste de bandit. À l'UPC, le parti politique dont il fut l'un des leaders, on dénonce des thèses révisionnistes et négationnistes programmées pour nier la valeur et le sens de la lutte pour la libération du Cameroun. Des propos à l'origine de la profanation selon Robert Bapolipot, secrétaire général de l'UPC.
Le discours véhiculé au niveau des plateaux de télévision vise à réveiller des blessures qui jusque-là ont pu être maîtrisées dans une volonté d'unité et de réconciliation.
Comme ses compagnons de lutte, Ernest Ouandier a été élevé au rang de héros national par le président Paul Biya en 1991. C'était 20 ans après son exécution à Bafoussam, après plus de 10 ans de lutte armée pour l'indépendance totale du Cameroun. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Un pays au bord d'une nouvelle guerre à grande échelle après des semaines de tensions et de combats. Ce pays, c'est le Soudan du Sud, alerte cette fois de l'International Crisis Group. Le cas de la base militaire de Nassir interpelle particulièrement, conquise par une milice Neuer, proche du vice-président Riek Machar, opposé au président Salva Kiir. Et malgré un appel au calme, la guerre civile, oui, menace à nouveau, selon l'ICG. Et cette situation pourrait être d'ailleurs un dégât collatéral du conflit voisin au Soudan, Paul Lorgerie.
Selon le rapport de l'ICG, la tension est à son comble dans la capitale Djouba. Depuis quelques semaines, le Soudan du Sud est le théâtre de recomposition politique qui risque de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. La faute à la guerre au Soudan et plus particulièrement à la coupure de l'oléoduc servant à exporter le pétrole sud-soudanais vers Port-Soudan, selon Daniel Akesh, analyste au sein de l'ICG spécialisé sur le Soudan du Sud.
La donne a récemment changé car, depuis un an, les revenus liés au pétrole se sont effondrés en raison de la guerre au Soudan. Il est donc devenu difficile pour le gouvernement de verser les salaires. C'est ce qui marque le début du problème.
Coupé de sa principale source de fonds qui servait son réseau clientéliste et donc la stabilité de son gouvernement, Salva Kiir s'est récemment rapproché du général Emeti, chef des FSR, s'éloignant ainsi du général Al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Cette dernière, elle, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices nuaires affiliées à Riek Machar. Un cocktail qui a donné lieu le 4 mars dernier à la prise d'une base militaire dans la ville de Nassir par la White Army, alliée de Riek Machar, dont beaucoup de sympathisants ont été arrêtés par la suite. suite. Si le vice-président est resté calme pour le moment, Daniel Akech prévient que des milices qui lui sont restées fidèles se tiennent non loin de la capitale sud-soudanaise.
Les explications de Paul Lorgerie sur RFI. Allez, on prend maintenant la direction de Majinga. Les projecteurs se sont braqués la semaine dernière sur cette cité balnéaire de la côte ouest de Madagascar, car elle a accueilli un conseil des ministres malgaches exceptionnellement délocalisé sur place. L'occasion pour la présidence d'annoncer dans la foulée une multitude de projets de développement pour cette ville qui est aujourd'hui dans le besoin, une ville qui a longtemps été quelque peu déconsidérée par le pouvoir central. Pourtant, Sarah Teto, les locaux ont accueilli ces annonces de façon mitigée, avec un enthousiasme modéré, dirons-nous.
Construction de deux centrales solaires, dont l'une qui sera opérationnelle sous 3 mois, promet Andra Zoëlne. Fourrage, modernisation du port, réhabilitation complète de la RN4, l'unique route reliant Majinga à la capitale, réfection des principales artères de la ville. À l'écoute de toutes ces annonces, Thiori, étudiant, s'est d'abord réjoui.
Moi, je mets 1h30 pour parcourir les 9 kilomètres qui me séparent de l'université parce qu'il y a plein d'embouteillages à cause des trous. Les routes en ville sont en très mauvais état. Des routes réparées, de la lumière partout, tout le temps, ce sont des bonnes nouvelles. Parce qu'ici, on se sent un peu oublié puisqu'on n'est pas de la capitale. Mais est-ce que ces promesses vont être tenues? Ici, les gens ne croient plus trop aux promesses du président.
Chez les opérateurs économiques, pas d'euphorie, bien que le besoin en infrastructures et en énergie soit immense. Pourtant, aucun groupement d'entreprises n'a souhaité réagir officiellement à ces annonces. Trop risquées, nous rétorque-t-on. Cet entrepreneur a accepté de s'exprimer à l'unique condition que sa voix soit modifiée.
Ce sont des effets d'annonce pour endormir la population, pour faire du favoritisme sur certaines personnes, certaines sociétés. Tout le monde le sait, personne ne le cache, mais personne ne le dit. La liberté de parole n'existe plus à Madagascar.
Qu'importe les critiques, l'ordre a été donné d'agir vite. Le chef de l'État a imposé un délai de quelques mois à ses ministres pour concrétiser ses projets.
Sarah Teto pour refermer notre journal, et on retrouve maintenant Andréane Mélard pour notre matinale.